de chanter la gloire de l'Éternel, je sentais la présence, la consolation de Dieu. Je pense que ce que je suis en train de dire, je suppose que ceux qui étaient là avec moi, eh bien, l'ont expérimenté aussi. Alors, je voulais juste vous donner ce témoignage. Je sais que quelques-uns ici connaissaient bien Mamie et auraient certainement souhaité participer, etc. Sans semaine, c'est toujours facile. Mais voilà, je voulais juste vous apporter ce témoignage que, enfin, en tout cas, c'était un service, mais dans lequel il y avait la présence de Dieu. Voilà. Alors, je vais vous transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et enfin, c'est la pensée que je vous partageais ce matin, je l'avais en fait déjà partagée ici dans l'église, mais en 2012. Parce que vous avez dormi d'ici là. Et puis... enfin, en fait, cette pensée que je vais redonner ce matin, elle est vraiment dans la continuité, finalement, elle est vraiment dans cette interrogation par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur, en direction principale pour cette année, hein, avec ce texte de Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2, et dans ce verset 2 où il est dit, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Et je sais tellement qu'on a besoin les uns et les autres, comme moi, Jean Bernard, j'ai besoin d'être transformé dans mon intelligence. Et je rends grâce à Dieu de ce que sa parole, et cette parole qui touche ma vie, elle est la parole de Dieu qui a une action dans mon cœur, elle change enfin, la personne que je suis. Et alors qu'on va entamer cette semaine de jeûne et prière, il me semble que c'est quelque chose d'important de réaliser à quel point, enfin, notre vie de tous les jours, celle qu'on est en train de vivre, eh bien, elle a comme pour vocation à nous qui sommes des enfants de Dieu à être changés, à être transformés. Oui, j'ai cette motivation et j'aimerais, enfin, vous la partager ce matin parce que j'aimerais tellement qu'elle soit la vôtre aussi en me disant, mais je vis aujourd'hui. Ma vie, elle est peut-être facile ou elle est peut-être difficile. Enfin, de toute façon, on vit tous des situations faciles et difficiles dans notre vie de tous les jours. Mais Seigneur, continue ton œuvre en moi. Continue à me changer. Continue à mettre tes pensées dans mes pensées. Enfin, mes raisonnements qui sont pas encore, où j'ai pas encore tout compris, ou dans la façon d'être, je suis pas vraiment celui que je devrais être. Enfin, dans tes pensées, Seigneur, alors viens. Oui, mais mes pensées, viens les changer, viens les transformer, que je regarde avec tes yeux à toi, pas seulement avec mon intelligence et ma sagesse humaine, mais que tu viennes me transformer, que je perçois ta sagesse à toi. Et dans cette dimension-là, donc cette pensée que je vais vous transmettre ce matin, elle est issue bien sûr d'un texte biblique, et si je peux donner un grand titre. C'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il dit aussi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Alors, dans cette dimension-là, je vais donc partager ça. Je comprends que j'ai besoin d'être moi, personnellement, d'être changé, parce que dans notre nature humaine, on défend les uns et les autres ce que nous sommes nous. Moi, enfin, c'est naturel. Tous, dans notre façon d'être, eh bien, on veut défendre nos intérêts à nous. Enfin, répondez à mes besoins, s'il vous plaît, hein. Puis chacun, on est là comme ça. On va vers l'autre, puis on veut que l'autre réponde à nos besoins. Or, on est tous différents, hein. Puis on a tous des besoins et des pensées et des sentiments différents dans plusieurs domaines, évidemment. Mes frères et sœurs, on est des enfants de Dieu. Et dans ce texte que je viens de vous partager, il y a quand même, comment je vais dire, il y a, enfin, il quelque chose de fort. Il y a quand même quelque chose qui me semble absolu, quoi. Hein, dans ces deux affirmations que nous venons. En tout cas, il y a ces deux vérités qui attirent mon attention et puis, moi, je vous voulais partager. C'est vrai que c'est ces deux vérités qui m'interpellent, eh bien, elles vous interpellent aussi, quoi. C'est un peu comme quelque chose qui est, qui est assez net. Hein. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est parfois Jésus qui me dit ça, puis celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il y a quelque chose d'important qui est ici. En tout cas, la première partie de ce verset, c'est de me dire, mais ce qui est dit ici, c'est que si je ne suis pas avec Jésus, je suis contre lui. Bon, ça, on comprend assez facilement, n'est-ce pas? Mais, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, dans les choses, dans les paroles que je prononce chaque jour, dans les actes que je pose chaque jour, dans ma façon d'être, entre nous, en tant que frères et sœurs, mais aussi envers nos amis, envers notre famille plus large, envers nos voisins, envers tous ceux qui nous entourent, eh bien, suis-je vraiment avec Jésus? Pourquoi est-ce que je ne suis pas contre lui? En tout cas, si je ne suis pas avec lui, eh bien, Jésus dit cette parole qui a un impact incroyable finalement. Si je suis pas avec lui, eh bien, c'est que je suis contre. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus est en train de nous dire ici que c'est impossible d'être entre les deux. Je sois avec Jésus. Alors, il y a aussi cet autre aspect. Jésus nous dit, mais celui qui rassemble, en tout cas, il nous dit qu'il est celui qui rassemble. Et on peut se poser la question, mais il rassemble pourquoi? Qui? Que veut dire Jésus quand il dit dans ce texte, si je rassemble pas avec lui? Alors, je disperse. Est-ce que nous sommes des rassemblés? Autour du nom de Jésus. Encore une fois, dans nos paroles, parce que dans nos raisonnements, on peut peut-être dire, oui, je suis celui qui rassemble avec Jésus, je travaille à son œuvre. Je ne suis pas en train de travailler pour moi. Je suis en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Ma priorité, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? C'est la question qui nous est posée dans ce texte. En tout cas, ce que je remarque personnellement, c'est que je vois qu'il n'y a pas de place à la neutralité encore. Parce que Jésus, en tout cas, nous dit ici que si je suis neutre, en fait, c'est que je suis contre. Si je ne travaille pas avec Jésus, si je ne sois pas pour Jésus, c'est bien porté un problème. On pourrait se dire, mais Seigneur, moi je suis pas mal. Hein. Je vis ma vie tranquillement. Je fais de mal à personne, c'est vrai. Mais Jésus, dans ce texte, nous dit, si tu ne fais pas avec moi, il ne dit pas ici, si tu ne fais rien, tant pis. Il dit, si tu ne fais pas avec moi, c'est comme si tu fais contre moi. Moi, c'est Et il va dire, donc, je crois que je redis de nouveau ce texte, si tu rassembles pas, alors, c'est-à-dire, si tu le pars, encore une fois, si t'es neutre, si tu ne cherches pas à rassembler, si tu ne fais pas l'effort de aussi t'intégrer, de faire, on est ensemble, un corps, dans l'œuvre de Dieu. L'Église, elle est le corps de Christ. On est composé de différents membres, bien sûr. Bien ensemble, on doit se rassembler pour une œuvre, pas pour la nôtre, mais pour la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais relire ce texte avec le contexte qui et donc on le lit, on lit tout ça dans Matthieu 12, à partir du verset 14. Alors, je vais vous le lire. Les pharisiens sortirent et darent conseil sur le moyen de le faire mourir. Jésus le sut et il s'éloigna de lui. Et une grande foule le suit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Verset 18, il nous dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas. Il ne criera pas. Personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront son nom. » Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et toute la foule disait étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Et lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, « Mais cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché ses démons? Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est verset 30. Celui qui ne rassemble pas avec moi me disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui ne parlera pas, celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Amen. Alors, c'est un long texte, hein. Mais il me semble important de bien saisir le contexte de ce qui est dit ici, notamment par rapport au verset 30 hein, que je suis en train de développer. On voit ici une chose. Enfin, moi, comme vous, je suis un enfant. Mon désir, alors je ne peux pas prononcer pour vous, mais je suppose que si vous êtes ici dans l'Église, c'est que vous avez quand même le désir d'être avec Jésus, n'est-ce pas? Enfin, vous répondez pour vous-même, n'est-ce pas? Mais être avec Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je veux être avec Jésus parce que je sais, parce que j'ai lu quelque part ou parce qu'on m'a dit que être avec Jésus, je suis sauvé? Est-ce que c'est seulement ça? Ou est-ce que être avec Jésus, c'est dans mon cœur avoir ce désir, non pas pour me glorifier, mais parce que j'aime Jésus, à être comme lui, puis à suivre son conseil. En tout cas, personnellement, c'est ce qui me semble être juste. C'est être avec Jésus, être pour Jésus, non pas contre. Eh bien, c'est être comme lui. C'est désirer être comme lui, même si je sais que ça, c'est tout un cheminement dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Mais personne d'entre nous pourra en dire un jour, alors qu'on sera sur cette terre, moi je suis parfait, je suis comme Jésus. Mais en tout cas, ça doit être notre chemin. Ça doit être notre, non seulement notre désir, mais notre volonté. Disant, je veux être comme lui. Alors, si je veux être comme Jésus, et si je veux suivre son exemple, qu'est-ce que je dois faire? On a lu tout à l'heure au verset 18 que quand Dieu, au travers du prophète Ésaïe, va parler de Jésus, il va déclarer un certain nombre de choses. Il va dire, voilà mon serviteur que j'ai choisi. Jésus est un serviteur que j'ai choisi. Est-ce que vous avez conscience, frères et sœurs, que nous aussi, les uns et les autres, on est choisis. On est choisis pour accomplir sa volonté. On est choisi parce qu'on a accepté le salut offert par Jésus. On est choisi pour annoncer la justice aux nations. On est choisi pour annoncer quelle justice? La nôtre. Est-ce qu'on est choisi pour annoncer nos pensées? Enfin, ce qui est dans notre intérêt? Ou est-ce qu'on a été choisi pour annoncer dans l'intérêt de Dieu? Parce que, en fait, c'est ça la réalité. Frères et sœurs, on est des enfants de Dieu. Encore une fois, je dis déjà tout à l'heure, mais ça me semble tellement important. C'est tellement facile pour chacun de nous, dans notre humanité. C'est même naturel. On va d'abord penser à nous. Parce qu'on veut penser à nous, frères et sœurs. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal de penser à nous. Je crois que c'est normal qu'on pense à nous. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mes frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu, je vous parle de ce qu'on est en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. On est chacun, chacune. On a chacun, chacune une place pour suivre l'exemple de Jésus, pour manifester l'œuvre de Jésus sur la terre. Il y a quelque chose qui m'a profondément marqué dans la parole de Dieu quand je pense à Jésus. Il est allé jusqu'au bout, on sait, on vient de le revivre au travers de la Sainte Cène. Ce qui me marque, Jésus, cet homme. Parce que dans la Bible, il nous est dit que il y a une notion importante, c'est que je dois. Jésus est à la fois homme et Dieu. Mais quelquefois, on pense que c'était facile pour Jésus alors qu'il était sur la terre. Ben oui, il était Dieu. C'était facile pour lui. Mais non. La Bible nous montre bien, et c'est, il y a cette notion qui est hyper importante pour chacun de nous, de réaliser que alors qu'il était sur cette terre, Jésus a vécu en tant qu'homme, même s'il était aussi en tant que Dieu. Et dans son humanité, c'est ce que la Bible nous dit, il a été confronté à toutes les choses auxquelles nous sommes confrontés. Et alors que Jésus était dans le jardin de Gethsémané et qu'il savait qu'il allait devoir aller sur la croix de Golgotha parce que c'était la volonté de son Père. Vous savez quoi? Son corps, son âme s'est rebellé contre ça. Pourquoi? Parce que il savait où il allait devoir aller. Il savait que il allait vivre des souffrances terribles. Il le savait. Alors, il s'est mis, il y a eu ce combat terrible en lui, à tel point que, comme il nous est écrit, des grumeaux de sang, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang alors qu'il était dans la prière. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, s'il te plaît, ce que tu prévois de me faire vivre s'éloigne de moi. Ça, c'est tout mon être qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, mes pères. Ça, c'est tout ce qui est en moi qui prie comme ça, mais en moi aussi. en moi paix. Ce que je désire, c'est ta volonté s'accomplisse. Je vais donner la priorité. Frères et sœurs, quand je veux suivre, quand je veux être avec Jésus, quand je veux suivre l'exemple de Jésus, eh bien, je veux faire le bien. Aujourd'hui, nous voulons faire le bien. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui nous dérangent, parce qu'on est tous des êtres humains, les uns les autres, on sait que quelquefois, mes défauts vont bien couper, entre guillemets. Je suis triste. Je sais que... Alors, je suis tellement reconnaissant au Seigneur, parce que, vous voyez, on l'a lu ensemble, hein, c'est écrit aussi que Jésus, il me regarde. Et puis, voilà, il dit, mais il ne cassera pas le roseau brisé. Il n'éteindra pas. Parce qu'on doit avoir dans notre cœur ce désir, même si on a des différences, même si quelquefois on se confronte les uns les autres parce qu'on ne pense pas la même chose, ça arrive, n'est-ce pas? Mais frères et sœurs, il y a une priorité qui est au-delà de tout cela. Seigneur, je vais vous garder. Je vais aller jusqu'où? Je veux vivre. Je veux accomplir ce que toi tu veux. Je veux rassembler avec toi et pas disperser, pas créer des situations qui vont dans des conflits et qui cassent les choses. C'est facile, ça? Non. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Donne-nous ton intelligence. Change mes pensées, Seigneur. Change mon cœur. Que je sois rendu capable de faire ces choses-là. On a lu aussi ensemble, toujours dans cette même pensée, dans ce même texte, on reconnaît l'arbre. Frères et sœurs, ça c'est chacun d'entre nous qu'on doit se poser la question. Dans mes paroles, est-ce qu'on reconnaît Jésus? Dans mon attitude, alors, vous savez, moi je sais, c'est facile d'être comme Jésus, une fois, comment je vais dire ça, c'est facile d'être comme Jésus quand tout va bien. Tout va bien tout le monde. Quand tout va bien dans notre famille, quand tout va bien avec vos voisins, vos amis, enfin bref, notre travail, c'est facile d'être comme Jésus. C'est pas là qu'on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Vous savez quand est-ce qu'on va reconnaître l'arbre à ses fruits? On a fait l'étude sur Jacques, rappelez-vous. Dieu va permettre qu'on vive quelquefois des situations, qu'on vive des situations difficiles, pour que finalement, on puisse nous discerner si on est vraiment transformé, changé à l'image de Jésus. Parce que c'est dans ces situations-là qu'on va voir si mes fruits sont bons, si mes fruits reflètent vraiment, si mes fruits ressemblent à ce que Jésus est, à ce qu'il fait. Comment tu réagis quand quelqu'un te fait du mal ou quand quelqu'un s'oppose à toi. Vous savez, moi j'ai remarqué, c'est une telle tristesse. Et c'est en aucun cas un jugement que je veux poser sur qui que ce soit, parce que c'est des choses que j'ai vécues aussi. Je laisse parler mes émotions, mes sentiments, enfin naturels en tout cas. La plupart du temps, mes réactions, elles sont pas vraiment très bonnes. Enfin, sont peut-être bonnes à mon intelligence humaine, pas forcément à la sagesse. quand on est dans des situations. Eh bien, plutôt que de chercher l'œuvre de Dieu, réagit d'une façon que pas, c'est un peu comme si, peut-être on ne se rend pas, mais c'est un peu comme si on veut punir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on a des réactions, par exemple, parce que notre voisin, ou notre frère ou notre sœur aura une attitude contre nous, ça arrive. Je ne sais pas vous pensez comme ça. Je pense que j'ai raison. Pourquoi je n'ai pas raison à 100% non plus. Mes frères et sœurs, quand c'est comme ça, comment est-ce que je réagis? Est-ce que j'en vois plus mal? Ou est-ce que je cherche préserver l'œuvre de Dieu. Parce que la priorité, c'est de dire, c'est ton œuvre, Seigneur, qui est importante. Oui, il y a cette situation-là qui n'est pas juste. Parce que vous savez, les conflits qu'on peut avoir les uns les autres, et qui peuvent amener. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Jésus va dire, mais celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et dans ces situations-là, quelquefois, on est plus des instruments, finalement, de séparation, des instruments de séparation. Parce qu'on veut à tout prix que ce soit nous qui aurons raison, et c'est notre position. Frères et sœurs, ce qui est le plus important, c'est la position. Et ce matin, ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est que on va vivre ce temps de jeûne et prière la semaine qui arrive. On veut chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est vouloir être comme Jésus. Chercher la face de Dieu, c'est vouloir que Dieu nous apprenne de ce qu'il est. Que Dieu mette en nous sa nature. Que Dieu fasse en sorte que l'Église que nous formons ici, cette cellule, parce que Dieu a voulu que nous soyons approuvés, eh bien, que cette cellule que nous formons répondent aux intérêts du Dieu qu'il est. Et ce qui est plus important, c'est qu'on puisse se rassembler plutôt que se diviser. Alors, frères et sœurs, la volonté de Dieu veut prier cette semaine pour que Dieu change. On veut s'humilier devant Dieu. Mais comme quand je vous l'avais partagé, on ne veut pas être humilié par les autres. C'est pas ça l'histoire. On veut s'humilier. On veut s'humilier de sa face. Parce que ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il est ce Dieu souverain. C'est lui qui sait mieux. C'est lui qui a tout. Frères et sœurs, je vous encourage à prier pour que Dieu manifeste sa vie en chacun. Que Jésus soit vraiment dans notre... Vous voyez, on peut prier les uns pour les autres, mais c'est nécessaire et il faut le faire. On aura l'occasion de le faire durant cette semaine. On aura l'occasion de prier pour chacun. Peut-être même que je n'ai pas pensé là-dessus, mais je vous enverrai la liste de tous les membres de l'Église. Ce sera une bonne occasion pour reprendre les noms à part un, pour prier. Donc, prier, on veut prier les uns pour les autres, mais j'aimerais aussi, frères et sœurs, que même avant de prier les uns pour les autres, peut-être qu'on puisse prier pour nous. Quand je dis pour nous, chacun. Disant, Seigneur, c'est d'abord entre toi et moi. C'est d'abord entre toi. Seigneur, je ne suis pas celui qui est mieux pour toi. C'est ce qu'on a pensé dans notre vie. charnel, pense toujours qu'on est mieux que celui qui est à côté de nous. Surtout celui qui est. On n'a pas forcément des intentions. Une expression. L'enseignement vient de changer. Parce que c'est d'abord ta volonté. Je veux être pour toi. Je ne veux pas être indifférent. Bien sûr que je ne veux pas être contre toi, mais je ne veux pas être indifférent. Je veux être pour toi. Je veux m'engager pour toi. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, c'est d'abord pour toi. Je veux suivre ton exemple. Je désire qu'on puisse te reconnaître, moi. Plutôt, je veux dire qu'on puisse te reconnaître, toi, en moi. Une fois, je répète, Jésus disait, donc, cette lecture qu'on a faite, qu'on reconnaît l'âme de ses frères. Frères et sœurs, Dieu, Jésus, celui qui veut qu'on soit rassemblé, qu'on forme un seul corps. Et quand Jésus va dire justement ce fameux verset 30, hein, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Bien, je ne peux pas faire autrement, penser à l'Église. C'est Dieu qui construit son corps. C'est Dieu qui dit, on voit ça dans les Actes, hein, où il est dit que et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. On a des jugements les uns sur les autres, qui dit, lui, moi je suis quelqu'un, mais lui, si je suis arrivé de penser comme ça. En tout cas, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Jésus qui sait. Mais Jésus nous dit, et ben c'est sûr, quand on a cette pensée. Rappelons-nous une chose. On trouve dans ce texte qu'on vient de dire encore une fois. Il ne cassera pas vos eaux brisées. Il n'éteindra pas la mèche du feu. Jusqu'à ce qu'il ne fait plus. Ça, vous savez, ce que ça m'inspire. Ça m'inspire qu'on doit redoubler de prières les uns pour les autres. J'ai souvent entendu, et je comprends très bien, parce que ça, c'est tout à fait notre nature charnelle. Les gens critiquaient d'autres personnes. Mais je ne parle pas au niveau de l'Église, forcément, c'est impossible. Je parle en général, mais aussi en tant que chrétien, les fédérations. Bref, c'est facile de se critiquer les uns les autres. Et moi, ma pensée, quand j'entends ça, quelquefois, je l'ai dit, mais vous critiquez. Vous venez de critiquer pendant un quart d'heure ou 20 minutes. S'il vous plaît, dites-moi combien de temps vous avez prié pour cette union, pour cette fédération, pour cette personne. Combien de temps vous avez pris pour bénir cette personne? Parce que je vous rappelle, on est en train de parler d'être comme Jésus. Et Jésus nous donne cet exemple. Il l'a fait pour nous. Il dit aussi qu'on doit bénir nos ennemis. Et maintenant, on est capable de le faire pour nos frères et sœurs. C'est ça. Ça me dit et ça me parle. Je dis, Seigneur, aide-moi. Change mes pensées. Transforme-moi parce que je veux te ressembler. Je veux apprendre à aimer comme toi. J'ai du chemin à faire encore. Alors, plutôt que vous voyez, je suis en train de vous parler de cette notion de rassembler, pas diviser, pas disperser. Vous savez, hein? Oui, quelquefois on se fait du mal les uns les autres. Quelquefois, même sans le vouloir, quelque part on est des ennemis les uns les autres. Même dans l'Église, je sais ça. Transforme la nature. Que je sois capable de bénir celui qui afin que je sois cet instrument qui rassemble, pas cet instrument qui divise. Mes frères et sœurs, vous voyez, quand on parle de rassembler, et quand on regarde avec cette notion d'église, enfin, il y a des choses qui sont quand même fortes. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, il nous est dit quelque chose de puissant. Ça a toujours interpellé mon cœur, ça. Ce texte nous dit « Les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. » Rendez compte. Les autorités et les puissances. Vous savez, quand la Bible parle des autorités et des puissances, elle parle de Satan et des démons. Dieu nous dit que quand ces anges déchus, Satan, ces démons, regardent l'Église, regardent ces hommes et ces femmes qui sont capables de se pardonner les uns les autres, qui, malgré leurs différences, sont capables de rassembler plutôt que de diviser. Parce que vous savez quoi? Un des qualificatifs de Satan, c'est le diviseur. Le qualificatif de Dieu et de Jésus, c'est celui qui rassemble. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on divise, on n'est pas en train de montrer la gloire de Dieu. Enfin, l'importance. Moi, je désire de tout mon cœur qu'ensemble, ici en tant qu'Église à Bruay, on soit ceux et celles qui manifestons les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Là, je vous donne un exemple. Parce qu'on en parle tellement d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie, ça? Ou est-ce qu'on peut prendre vraiment cette conscience-là? Non, c'est... Je comprends que de m'humilier devant toi, que Colossiens 18, il est lui-même la tête de son corps et l'Église. Sert à quoi notre tête? Vous faites quoi avec votre tête? Ah, quelle question? Ouais, moi, en tout cas, avec ma tête, mes raisonnements, je parle, je pose des actions, je décide des choses, non? C'est pas avec votre tête que vous faites ça. Alors, on va reprendre ce verset en réalisant ça. Hein, il est lui-même la tête. Donc, Jésus est la tête de son corps qui est l'Église. Jésus, la tête de l'Église, c'est qui ici? La tête de l'Église, c'est Jésus. La tête, donc celle qui me donne les bons raisonnements, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est celle qui va me donner les paroles que je dois dire, enfin la tête, c'est Jésus. Celle qui va me permettre de prendre les bonnes décisions. Je pense que moi, je pense. Si je pense pour Jésus. C'est pour m'en assurer. Est-ce que vous voulez vraiment que la tête de l'Église soit Jésus? C'est pas possible autrement. Vous comprenez ce que je veux dire, certainement. Mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 5, verset 27, il a voulu ainsi se présenter cette église à lui-même. C'est bien. Rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà pourquoi c'est nécessaire. Dans sa face. Alors peut-être que vous êtes tellement plus intelligent que moi, tellement plus spirituel que moi, enfin, c'est possible. Mais moi, je sais en tout cas, personnellement, j'ai besoin de terminer dans ce sens. J'ai besoin d'être changé dans mon intelligence, dans ma sagesse. J'ai besoin, moi, j'en ai besoin d'être transformé dans le Dieu qui m'a. Seigneur, je désire vraiment dans mon cœur que l'Église dans laquelle je suis, ton Église, soit rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, mais digne de Dieu et irréprochable. Frères et sœurs, Jésus travaille à construire et à rassembler l'Église. Permettez-moi de vous dire, malheur à celui qui cherche à la détruire. En tout cas, c'est ce que Jésus nous enseigne en ce moment. Bon, il y a plein de textes, je ne vais pas vous les lire ce matin, mais je vous enverrai les notes, les textes que j'avais relevés, si vous voulez lire, peut-être. Mais j'aimerais vous rappeler, encore une fois, qu'avec Jésus dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'autre. Je suis soit pour lui, soit contre lui. Je suis soit celui qui rassemble, et si je ne suis pas celui qui rassemble, je suis celui qui divise. Alors, dans quel cas cette semaine, je vous invite à prendre le miroir. C'est-à-dire la Bible, sa parole. C'est-à-dire venir prier. Prendre du temps dans la prière. Avec un cœur honnête devant vous. Apocalypse 22, verset 17. Est-ce que nous sommes de ceux? C'est bien ce que dit ce texte. Et l'Esprit et l'épouse disent bien. Est-ce que vous voudriez que Jésus soit là au milieu de vous, même s'il l'est bien sûr? Essayez de vous amener, vous imaginez que Jésus est l'officier. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie. Là, je remarque deux choses. Plus que deux choses, en tout cas. Il y a trois choses. Ce qui fait que notre cœur. Bien touché. Bien. Première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai soif de ressembler à Jésus? Est-ce que j'ai soif d'accomplir sa volonté? Parce que si j'ai soif, alors je viens. Si j'ai soif cette semaine, je vais pouvoir venir devant sa face. Je vais prendre ce temps. J'aimerais vous expliquer ce matin. Enfin, pas vous expliquer, mais vous interpeller sur la nécessité d'avoir soif de venir devant Dieu, tel que nous sommes. Ah, viens devant Dieu, nous sommes. Dieu va nous montrer des choses, peut-être que ça ne va pas nous faire plaisir. Même certainement. Mais ne faisons pas comme ceux quand la parole de Dieu ne nous fait pas plaisir. Elle est justice et vérité. Il y en a qui passent au-dessus, qui passent vite à notre page. Hein. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Le Seigneur, viens me parler. Seigneur, je veux recevoir ce que tu as dit. Viens, viens, Seigneur. Justement, si je suis dans cette dimension-là, alors que celui qui veut prenne de l'eau de vie. Prendre ce temps dans ta vie, parce que j'ai besoin de cette eau. J'ai besoin de l'action de ta part. J'ai besoin de l'action de ton esprit. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé. D'intervention ce matin. Un dernier texte. Petit. Simple. Apocalypse 19. Verset 7. Quand même. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'être transformés, changés. Réjouissons-nous d'avoir en nous ce désir profond de ressembler à Jésus, d'être pour lui, et non pas contre, et non pas ni pour ni contre, d'être pour lui, de rassembler avec lui. Soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie, même si on est redressé. Et donnons-lui gloire. Toute la gloire lui revient. Vous savez quoi? La Bible nous dit une chose. C'est que il est possible que les hommes et les femmes sommes, pas forcément les vies, bien sûr, les hommes et les femmes que nous sommes ne veulent pas rendre gloire. D'ailleurs, si nous ne sommes pas pour Jésus, si nous sommes ceux et celles qui ont les séparations, enfin, qui ne rassemblent pas, eh bien, nous ne sommes pas ceux et celles qui donnent gloire à Dieu, hein. Mais si je veux être celui qui lui donne gloire, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que même si aujourd'hui je ne peux pas donner gloire, la Bible nous dit qu'un jour, tout genou fléchit. Mais ce qui est grave, il y a tous ceux qui auront rendu gloire à Dieu aujourd'hui, dans notre vie, que nous sommes sur cette terre, qui auront donné gloire, qui auront fléchi les genoux devant sa face, qui se seront humiliés volontairement, comme nous voulons le faire cette semaine. Mais tous ceux-là fléchiront encore le genou devant. Tous ceux qui seront obligés de fléchir le genou devant Dieu le jour où tout genou fléchira, ce ne sera pas le même. Ce sera pas la même chose. N'oublions pas ça. Pourquoi je vous dis ça? Je relis, je vais essayer de vous relire jusqu'au bout, ce verset 7, chapitre 19 de l'Apocalypse. Je reprends. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues. C'est tout. Et son épouse s'est préparée. Ça veut dire que c'est pas tout seul comme ça. C'est pas juste une position d'attente. Son épouse s'est préparée. Son épouse est celle qui est pour Jésus. C'est-à-dire celle qui, aujourd'hui, se prépare à ressembler à Jésus. Son épouse est celle qui ne travaille pas à la dispersion, mais à rassembler. Alors, cette épouse, c'est pour nous. Le Seigneur touche chaque minute. Moi en premier. Moi. Je vis ce temps-là. Cette semaine, ma prière, déjà, aujourd'hui. Seigneur, touche. Touche. Et touche la vie de chacun de mes frères et sœurs. Afin que l'Église que nous sommes soit celle qui te glorifie. Ça, c'est mon cœur, c'est mon désir. J'espère que c'est aussi votre cœur. Soyez bénis, chers frères. Vous qui êtes chéris aussi par Jésus lui-même. La gloire vous revient. Amen.